Dans la discrétion la plus totale, ils investissent champs, bureaux de poste désaffectés, entrepôts. Source de légendes multiples, au cœur d'une mythologie d'un cloud propre, matériel et sûr où se multiplient les connaissances scientifiques et les informations, nombreux sont les mythes autour des data centers. Ces places méconnues, sources de fantasmes, bastions invincibles, lieux de concentration de données, de pouvoir, solutions miracles de la transition énergétique, tout, vous saurez tout sur les data centers dans cette émission. Qui travaille dedans? Pourquoi? Comment bien choisir votre data center pour monter votre service de green cloud computing connecté? Les ordinateurs se nourrissent-ils de lumière bleue? Quels indicateurs météorologiques et sociologiques permettent de comprendre les enjeux des data centers? Quels enjeux politiques soulèvent les data centers? Bonjour à tous, vous êtes dans La Voie Libre, émission hebdomadaire sur Graphite de Picasoft, une association qui s'est donnée pour but de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée et de promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Vous pouvez retrouver le podcast sur radio.picasoft.net. Moi, c'est Baptiste Wojtkowski et je suis également en compagnie de Audrey Guélou, Stéphane Crozin et Guillaume Carnino. Guillaume Carnino, vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire COSTEC à l'Université de technologie de Compiègne. Vous enseignez l'histoire des sciences et des techniques et vous avez travaillé en compagnie de Clément Marquet sur les data centers et avez publié en 2018 à ce titre un article dans la revue Zilzel intitulé « Les data centers enfoncent le cloud, enjeux politiques et impacts environnementaux d'Internet ». Alors, tout de suite, une première question. Est-ce que j'ai dit des grosses bêtises dans l'introduction? Est-ce que vous voulez réagir rapidement sur ce que j'ai dit?
Oui, tout à fait, parce que moi, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas du tout valider par rapport à votre introduction, à savoir le fait que je pourrais répondre à toutes les questions concernant le choix de data center, comment faire du green IT et toutes ces choses-là. Moi, je suis à peu près foncièrement incompétent sur la question des data centers. Je suis un enseignant-chercheur en sciences humaines, je suis historien principalement de formation, même si dans une vie antérieure, j'ai été ingénieur en informatique. Et dans ce cadre-là, on a lancé une enquête historique et ethnographique avec mon collègue Clément Marquet, qui n'est pas présent aujourd'hui, on est un petit peu en train de découvrir ce champ. Ça fait en effet quelques années qu'on travaille dessus, mais on ne peut pas considérer qu'on aurait l'expertise de quelqu'un qui est dans une société de conseil pour la construction de data center et qui a 20 ans de métier derrière lui. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut raison garder. Je vais essayer d'intervenir dans ce que je connais sur les data centers, mais ça reste limité. Très.
Mince, on ne pourra donc pas lancer notre green computing connecté. Du coup, vous avez un peu anticipé ma seconde question qui était comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler sur les data centers? Est-ce que...
Oui, tout à fait, mais je ne pense pas que ça recoupe tant que ça ce que j'ai dit au début, si ce n'est qu'il y a en effet un concours de circonstances qui est que on s'est rencontrés dans le cadre d'un colloque avec Clément et on avait des champs d'investigation communs. En fait, donc moi, dans une vie antérieure, j'étais ingénieur en informatique et je n'ai jamais complètement arrêté le questionnement dans mes activités de recherche en sciences humaines sur ces questions-là. Et à ce titre, il y a quelque chose qui, depuis un bon moment, hein, j'avais vu passer un petit peu ça, c'est pas encore du data center au sens actuel du terme, mais j'ai travaillé à l'Institut National de l'Audiovisuel et j'avais vu pour le stockage, puisqu'il y a tout le service de l'Institut National de l'Audiovisuel qui s'occupe des archives, en fait le dépôt légal de la radio-télévision, et j'avais vu le service de stockage à l'époque, au début des années 2000, c'était un service qui fonctionnait sur DVD. En fait, ils avaient des robots qui enregistraient des DVD. Ils avaient un système de boîtiers, comme les boîtiers de CD, mais un peu sioux, où il y avait trois DVD qu'on pouvait mettre dedans, et ensuite des hangars entiers remplis de DVD, comme ça, les uns à la suite des autres. Donc, j'avais commencé à apercevoir un petit peu la question du stockage de données dans ce cadre-là, tout à fait professionnel, sachant que par ailleurs, je m'étais intéressé, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais délaissé, j'ai des lectures sur les développements de l'informatique à l'échelle internationale. Et dans ce cadre-là, en effet, la question de la gestion de données me titillait un petit peu, la question du stockage de ces données à l'échelle globale, et puis les chiffres qu'on voyait étaient sans cesse croissants, et donc j'avais envie de lancer une enquête là-dessus, et je ne savais pas exactement par quel bout prendre cette chose-là, puisque les data centers, ce n'est pas des endroits dans lesquels on rentre, il y en a un certain nombre qui sont d'un niveau de sécurité quasiment militaire. Et donc, je ne savais pas trop par quel bout prendre ça, jusqu'au moment où, pur concours de circonstances, il y a une étudiante, dont je ne citerai pas le nom, hein, mais que j'ai eu l'occasion de recruter dans l'une des formations dans lesquelles j'enseigne à l'UTC, et qui, au cours de son entretien d'admission, m'a dit incidemment que son père travaillait dans un data center. Donc, j'ai laissé ça sur le moment pendant l'entretien, mais par la suite, une fois qu'elle a été admise, elle méritait d'être admise sans ça. Hein, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y avait un lien de cause à effet, évidemment, une étudiante très forte. Mais en tout cas, par la suite, eh bien donc, une fois qu'elle était admise à l'UTC, je lui ai posé la question de savoir si ce serait possible éventuellement d'échanger avec son père, s'il y avait possibilité de voir le lieu qu'était le data center où il travaille. Et puis, voilà, ça s'est fait. Il y a une visite qui a été organisée pour des étudiants des étudiantes de l'UTC. Et donc, j'ai pu participer à ça. Donc, j'étais un peu en train de découvrir cet univers, déjà très surpris, parce que ce commercial, enfin, le père de cette jeune fille, la première chose qu'il me dit au téléphone, c'est ah, mais il faut que les gens, je crois qu'on l'a mis dans l'article après cette citation, mais il faut que les gens le sachent. Il disait l'activité la plus polluante au monde. Alors, je crois que c'était un peu exagéré, c'est certes polluant les data centers, mais je crois que la mine, c'est quand même pire, même si tout ça est lié, évidemment. La mine travaille pour le data center qui travaille pour la mine, mais enfin, bon, bref. Mais donc, voilà, déjà, première entrée en matière de la sorte, et puis voilà, après, il nous a fait visiter. Avec un certain nombre d'éléments assez sidérants, hein, par le gigantisme des infrastructures, on se rend compte, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, puisque par la suite, donc là, je mélange un peu tout, je suis désolé, mais avec Clément Marquet, donc je termine sur ce fil-là, on s'est croisé dans un colloque, et lui, il travaillait sur la Smart City, et il était un peu dépité des traitements qui étaient faits sur la Smart City classiquement, qui étaient beaucoup dans. Si on veut être méchant, on dit le bullshit, mais enfin voilà, dans le baratin un peu sur le hype, sur ce qui est censé arriver, ce qui va être le nec plus ultra des années à venir, etc. Et lui, il se posait vraiment la question de savoir bah, concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. La Smart City, c'est quoi comme infrastructure, ça va coûter quoi, ça va avoir quel effet. Et il était en train de travailler notamment sur une controverse à Aubervilliers de riverains, majoritairement des riverains en l'occurrence, mais qui s'étaient mobilisés contre des data centers à Aubervilliers qui faisaient déjà, c'est des établissements à risque industriel important, hein, avec des cuves de fioul gigantesques. Donc, ils se sont aperçus que c'était compliqué. On leur avait vanté plein d'emplois. Ils ont découvert que sur des gigantesques bâtiments, il y avait au maximum une cinquantaine de personnes qui travaillaient, donc quasiment toutes en intérim. Et puis aussi, il y a eu une pollution sonore permanente. Hein. C'est pas énorme, c'est quelques décibels, c'est du. Mais voilà, ça s'arrête jamais, été comme hiver, jour comme nuit. Donc, pour les gens qui habitent à côté, c'est compliqué d'avoir un site Céveso comme ça. Mais donc, dans ce cadre-là, là, lui, il travaillait sur cette controverse. Moi, je venais d'avoir enfin pu visiter un data center et de rentrer dans cette histoire-là. Donc, on a un peu discuté. On s'est aperçu qu'on voulait travailler sur ces questions tous les deux et on allait mettre nos réseaux en commun. Et on s'est donc retrouvé comme ça à essayer, dans un premier temps, de réfléchir un peu plus sérieusement à des stratégies pour rentrer dans les lieux et pouvoir discuter avec le milieu. Donc on a fait quoi? Bah, on s'est aperçu que ça marchait super bien. Alors là, il y avait en effet le concours de circonstances qui était qu'il y avait un lien familial entre la jeune fille qui travaillait à l'UTC, enfin, étudiante à l'UTC, et le père qui travaillait dans le data center. Mais au final, en fait, on s'est aperçu que c'était une porte d'entrée géniale parce que les étudiants ingénieurs de l'UTC sont de potentiels futur client de data center. Et donc très souvent, on a eu l'occasion de faire comme ça, on a fait une petite dizaine, un peu moins, des visites de data center où on emmenait des groupes étudiants officiellement pour faire visiter des étudiants de l'UTC, sachant qu'on était transparent avec les étudiants, on leur disait que c'était aussi nous dans le cadre de notre recherche. Donc voilà, on a pu visiter ces sites, on a essayé de faire une ethnographie des salons professionnels. Donc il y a plusieurs, il y en a deux par an. Hein. Il y a Je crois qu'il y a le Data Center World et la Cloud Computing Expo à la porte de Versailles. Enfin, j'écorche peut-être les titres, hein, mais c'est l'esprit, sachant qu'il y a aussi des sous-salons sur l'Internet des objets, des choses comme ça. Donc voilà, on a pu faire ce genre d'exercice, hein, passer une journée à voir tout. Bah, il n'y a que des gens du métier, hein, c'est pas tellement un salon grand public, ça, c'est pas le salon du livre. Ou le salon de la plongée, ou je ne sais quoi. Mais donc, on s'est retrouvé comme ça à aller voir les professionnels, ce qu'ils racontaient, pourquoi, comment. Et puis, de fil en aiguille, on a pu obtenir des entretiens avec un certain nombre d'entre eux, de profils très divers, justement des gens qui travaillent dans des cabinets de conseil pour construire des data centers, des professionnels de la sécurité du data center. Voilà, on a récupéré de la littérature, on a avancé, puis on a pu ensuite rencontrer d'autres groupes, le groupe Eco-Info du CNRS, ça c'est beaucoup Clément qui est allé là-bas. hein, il est en contact direct avec eux, qui réfléchissent aux bonnes pratiques du data center. Voilà, donc une fois qu'on rentre dans le champ, en fait, de fil en aiguille, on a des contacts et on peut petit à petit commencer à avancer.
Bon, Guillaume, tu vas nous raconter, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ce que tu as pu observer grâce à ces points d'entrée. Je note deux trois éléments là que tu as ouverts déjà, donc sur lesquels on va revenir. Et donc évidemment la question de l'énergie, de la consommation d'énergie. Tu as parlé de la question également des emplois. Tu as parlé également des promesses, un petit peu des promesses du futur. Et le côté un peu truc à la mode, moi, c'est les quatre points là que je note. Et je pense que dans le cadre de cette émission, on va renaviguer autour de ces thèmes. Mais je relaisse la parole à Baptiste.
Oui, de fait, dans un premier temps, on va peut-être commencer par rappeler un peu qu'est-ce que c'est les data centers, d'où ça vient, qu'est-ce que vendent les gens qui font du data center en fait. Et après, je proposais de s'attaquer effectivement au mythe soulevé par les data centers. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que vraiment ça tient ses promesses? Et quel problème on peut voir que ça pose en termes d'organisation politique, sociale, etc. Et du coup, je sais si ça vous va comme plan de discussion.
Oui, chaque question est gigantesque, mais on va tenter. Ouais.
on va avancer lentement et petit à petit. Mais déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on fait un data center et surtout d'où ça vient historiquement, comment on en arrive à faire des énormes centres de données. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça?
Oui, alors je vais essayer de synthétiser. Là, je coordonne un livre sur l'histoire des techniques à l'époque contemporaine. Donc, pour les historiens contemporains, ça veut dire de 1789 à nos jours. Mais donc voilà, sur deux siècles d'histoire des techniques, et dedans, j'ai notamment écrit un texte. C'est le seul texte que j'ai écrit après, c'est les introductions, mais sur l'histoire de la quantification industrielle, et donc des calculatrices au data center, histoire du calcul informatique et de la quantification industrielle. Et c'est bon, j'ai tenté de faire une synthèse de ce qui existe et de ce que j'ai eu l'occasion de travailler, mais c'est des choses à travailler encore. Mais bon, je vais quand même essayer de vous donner quelques éléments en résumant un peu. Pour moi, il y a trois principales origines à des choses qu'on appelle data center aujourd'hui. Une première, ce sont les nécessités de calcul de masse qui arrivent avec l'informatique, en fait avant même l'informatique. Dès les débuts du XXe siècle déjà, hein, avec le développement des administrations étatiques, on a besoin d'un recours au calcul très important. Hein. Ça rejoint l'histoire de l'informatique plus globale et pas seulement des data centers. C'est l'histoire même du passage de la mécanographie, puisqu'avant d'avoir des ordinateurs numériques comme on a aujourd'hui, on avait des ordinateurs mécaniques, analogiques, qu'on n'appelait pas des ordinateurs d'ailleurs, c'était des machines mécanographiques, des tabulatrices qui faisaient des sommes sur des trous dans des cartes perforées. En fait, on faisait passer des cartes qui étaient mangées rapidement par la machine et qui ressortaient ensuite. Et en fonction du positionnement du trou sur la carte, il y avait un compteur qui s'incrémentait, hein, c'était mécanique avec une aiguille, en fonction du nombre de perforations sur la totalité des cartes passées dans telle position qui avait eu lieu. Ça, c'est des choses qu'on voit se développer, par exemple, pour le recensement américain. C'est les machines Hollerith, du nom de l'ingénieur qui brevette ça dans les années 1890. Et donc, il y a besoin de quantités de calculs impressionnantes, et donc on utilise ça parce qu'au départ le problème, notamment pour le recensement, c'est qu'ils mettaient 10 années pour compiler les données du recensement et avoir les informations. Quand vous êtes dans des métropoles avec grande croissance urbaine, Chicago ou je ne sais quoi, eh bien s'il vous faut 10 ans pour avoir les résultats d'un recensement et pouvoir indexer ensuite la politique de votre ville là-dessus, évidemment il y a un problème de temporalité. Donc voilà, l'idée c'était d'accroître la vitesse de traitement, et on a comme ça des machines qui sont utilisées. Alors des machines, pas seulement, il y a beaucoup d'êtres humains aussi qui sont utilisés, et donc des calculatrices, là au sens premier du terme, devrait être celui-ci et pas celui des petites machines qu'on voit par la suite, en imaginant que Pascal, avec sa Pascaline quelques siècles plus tôt, avait déjà inventé ça. Les calculatrices, hein, c'est ce qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire des hangars remplis de gens, principalement de femmes, principalement noires, parce qu'elles sont payées moins cher, hein, qui sont payées donc pour effectuer des calculs en grande quantité. Donc ça va être dans le cadre des administrations, dans le cadre de grands projets de recherche. On va encore avoir ça à l'heure du projet Manhattan pour la bombe atomique. Donc on a des centres de traitement, hein, où on a des gens qui travaillent pendant très longtemps, hein, on peut même faire carrière dedans. y a un livre qui est publié là-dessus, hein, Hidden Figures, le rêve américain, enfin je traduis le titre, hein, et l'histoire qui n'a pas été racontée des femmes noires mathématiciennes qui ont aidé à gagner la course au spatial par Margot Lee Shetterly, et donc qui raconte, hein, ces histoires-là. Voilà, comment est-ce qu'on avait tout un tas de gens qui ont été vraiment embarqués dans cette histoire-là et qui sont vraiment les gens invisibilisés de l'histoire du calcul. Mais parallèlement, hein, quelqu'un comme John von Neumann, fils de l'un des riches banquiers de Hongrie, qui va se retrouver à développer l'architecture qui va porter son nom, hein, l'architecture von Neumann, qui est encore à l'origine de pas mal de développements, enfin, qui est encore utile tout simplement aujourd'hui en informatique, von Neumann lui, au cours du projet Manhattan, dans lequel, donc le projet qui vise au développement de la bombe atomique, hein, et donc qui aboutira à Hiroshima et Nagasaki, von Neumann, qui a travaillé sur la théorie des jeux, il s'intéresse beaucoup à la question des calculs et à la quantité des calculs qui doivent être réalisés, et il se dit qu'il va falloir automatiser un certain nombre de choses. Donc il réfléchit à ces questions-là, et dans ce cadre-là, on va voir à la suite, hein, de la Seconde Guerre mondiale, les premiers grands centres de calcul, qui ne sont pas vraiment des data centers, mais il y a déjà quasiment tous les éléments, hein, pour les ordinateurs de l'époque. Parce que voilà, si on prend, je ne sais pas moi, le projet SAGE, un projet de défense aérienne états-unienne, sont des centres de traitement qui devaient, donc il devait y en avoir, je crois, une soixantaine sur le territoire états-unien. Je crois qu'il n'y en a jamais plus que 23 qui ont été construits. Enfin, il faudrait vérifier les chiffres, je dis tout ça de mémoire. Mais donc, les centres SAGE sont des centres de 8000 m² sur deux étages. Il y a un étage avec 4000 m², donc la téléphonie, les opérateurs humains, tout ça. Et puis, il y a un étage, 4000 m², hein, pour les ordinateurs. Il y a deux ordinateurs en tandem à l'époque, hein, qui fonctionne avec des tubes à vide, et donc ces deux ordinateurs, ok, il y en a un qui plante, hein, vous comprenez, il y en a un qui prend le relais. Voilà, je crois que c'était 58 000 tubes à vide par ordinateur, c'était quelque chose comme, je crois, plus de 70 tonnes par ordinateur, donc il fallait des bâtiments très importants. Donc on a une histoire, c'est à ça que je voulais venir, c'est mon premier point sur ces trois points d'histoire. On a en fait, hein, des grands centres qui sont extrêmement sécurisés, parce que typiquement on est dans ces grands projets de défense états-unienne, des centres sécurisés, c'était 2 mètres d'épaisseur, les murs, hein, dans les centres SAGE. Donc des centres où on va mettre des machines qui coûtent très très cher pour effectuer des calculs en très très grande quantité. Et donc on a déjà des problématiques dans ces centres-là, pas seulement les centres SAGE, hein, tout un tas de centres de calcul différents, qui ne sont pas encore des data centers au sens contemporain, mais il y a déjà quelque chose de cet ordre-là, par exemple la problématique de la climatisation, où on retrouve des incidents qui ont lieu, comme ça a pu avoir... Je crois que c'est chez Facebook, en 2011, il y a eu un problème de climatisation dans un data center qui a abouti en fait à faire à produire une pluie à l'intérieur d'un data center en raison d'une température, d'une hygrométrie spéciale, etc. Donc il s'est mis à pleuvoir dans un data center juste par condensation, en fait. Eh bien, le même type d'incident qu'on peut avoir dans ces bâtiments dans les années 60, hein, 1960, où on a en effet un problème de climatisation. Là, je vous le dis de mémoire, donc je ne me rappelle plus le lieu exact. Mais voilà, un problème de climatisation qui aboutit à une condensation très importante et même à de la glace à l'intérieur d'un de ces centres de données. Donc en termes de masse, en termes de quantité, sachant que moi j'accorde beaucoup d'importance à la question quantitative dans l'histoire des techniques, eh bien en termes de masse, en termes de quantité, on a déjà des choses qui sont similaires à ce que seront les data centers par la suite. Et quelques-uns d'entre eux, pas tous, hein, mais quelques-uns des data centers actuels vont pouvoir parfois hériter de ces vieilles, infrastructures urbaines, de ces vieux bâtiments. Mais c'est plus l'exception que la règle, même s'il y a quand même une forme de continuité en termes de préoccupation. Les deux autres points...
Je me permets juste de vous interrompre. Il y a aussi une question de se protéger de la panne par la redondance des techniques aussi. Dans le premier cas que vous décriviez aussi, l'idée on voit aussi une similarité à ce niveau-là, non ? Je peux me tromper ?
Oui, bah disons qu'on est en train de découvrir les préoccupations. Non, c'est très juste, mais voilà, sauf que c'est pour ça qu'il faut... c'est quelque chose qui est difficile à manier, la question du qualitatif et du quantitatif, ou le changement de nature ou le changement de degré. Moi, l'un des grands points sur lequel j'insiste toujours en histoire des techniques, c'est de dire que ce qui compte, ce n'est pas tant l'invention, mais le passage au déploiement, le déploiement réel de masse. C'est ça qui change vraiment les choses et qui fait advenir. Autrement dit, oui, il y a des préoccupations qui sont déjà présentes et qui sont déjà identifiés, il y a une forme de continuité, mais il me semble que c'est encore sans commune mesure avec ce qui aura lieu quand on aura des data centers déployés à l'échelle actuelle. Mais oui, vous avez raison. On a deux ordinateurs en tandem, là où aujourd'hui, dans un data center, alors ils ne sont pas tous de la même façon, ils ne servent pas tous au même site, mais parfois on a même des sites qui sont répliqués sur plusieurs data centers. serveurs, et Google, ça doit être quelque chose comme 2 millions de machines à l'heure actuelle, à peu près, plus ou moins. Je dis ça, c'est un ordre d'idée, hein, je suis pas, voilà. Mais ça, ça permet d'avoir un ordre d'idée. Donc oui, entre 2 et 2 millions, c'est pas la même chose. C'est, je pense que Google, c'est pas le projet sage, c'est très différent d'ailleurs à tous les niveaux. Mais ça n'empêche qu'on a déjà ces préoccupations qui sont un petit peu présentes. Alors si j'ai quand même juste ce petit excursus sur la question que degré nature ou qualité quantité, c'est que souvent on entend que oui, mais ça c'est dans ce cas-là juste une différence de degré, c'est pas une différence de nature. Bah, mon point, c'est de dire que au-delà d'un certain seuil, et l'histoire des techniques est exemplaire en ce sens-là, hein, il me semble, au-delà d'un certain seuil de massification, l'activité change de nature. On a deux serveurs ou on en a 2 millions, c'est plus la même activité. On fait sur une base de données en local une petite recherche en plein texte. On peut faire ça, programmer ça en SQL, ça se compte en minutes. Si on veut faire le même exercice, plus sur une base de données en local, mais sur tout Internet ou presque, eh bien, c'est la même chose et ça n'a plus rien à voir du tout. Mais c'est vraiment sans aucune commune, c'est sans commune mesure et ça s'appelle Google, par exemple, ou Yahoo, ou ce que vous voulez, mais voilà, ça s'appelle un moteur de recherche et ça demande d'autres activités, des postes à part entière, des infrastructures physiques gigantesques, de l'énergie, etc. Voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'il y a une histoire de l'informatique que je trouve assez mauvaise, qui, alors, je cible personne en particulier, mais on peut trouver ce genre de choses, par exemple, de quand datent les débuts de l'algorithmique. Et donc, on a des gens qui disent que déjà dans les tombeaux égyptiens, on a retrouvé des recettes plus ou moins alchimiques, et donc c'était déjà des algorithmes, puisqu'on disait faire telle opération, puis telle autre, et donc ce serait ça qui serait déjà un algorithme. Donc voilà, mon point, c'est de dire que pour moi, ça n'a aucun sens de parler d'algorithmes sur des papyrus égyptiens retrouvés dans des tombeaux. C'est pas du tout la même chose, parce que même si on peut y voir une forme de similarité logique ou même inventive, eh bien, en termes de masse, en termes de quantité d'opérations réalisées, c'est sans commune mesure, à un tel point que ça n'est plus de même nature. Voilà. Donc, par rapport à votre question, oui, il y a un point de lien. Après, je pense qu'il y a quand même eu un cliquet, un seuil qui a été passé depuis, qui fait qu'on n'est plus dans le même univers du tout. Voilà.
D'accord. Ce qui nous amène peut-être au troisième point pour.
Alors, les deux autres points. Oui, les deux autres points, j'en ai fait qu'un, en fait. Ouais, je suis désolé. Hein, c'est, voilà. mais donc, les deux autres points. C'est bah, justement cette massification. C'est le fait qu'on quitte l'univers de la mécanographie pour entrer dans les vrais ordinateurs numériques et que ceux-ci se miniaturisent plus ou moins progressivement. Hein. Dans les années 60-70, on a encore, dans les années 60 en tout cas, des ordinateurs qui peuvent tenir des étages dans les banques hein, avec voilà, des choses qui sont extrêmement imposantes. Et bah, petit à petit, ça va se multiplier et il va y avoir de plus en plus de machines et on va plus seulement développer de gigantesques mainframes, mais on va avoir des infrastructures client-serveur. Alors là, je saute beaucoup d'étapes, ça demanderait beaucoup plus de précision, mais en gros, pour le dire très simplement, on va arriver dans un univers où on va avoir de plus en plus de plus petites machines, mais néanmoins, parfois, qui sont données à des administrateurs pour être gérées. Donc, on va voir comme ça émerger des salles informatiques, comme ça s'appelle dans un certain nombre d'institutions. Il y en a dans la plupart des universités dans les années 80-90. Il y en a dans les banques, il y en a dans les grandes administrations. Il y en a évidemment dans les entreprises et les grandes entreprises. On a le service informatique, appelé DSI ou autre chose, hein, qui va s'occuper comme ça de cette salle informatique. Et donc, nous, on a interrogé un certain nombre de gens qui travaillent aujourd'hui dans les data centers et qui ont travaillé, qui ont un peu d'expérience professionnelle, qui ont travaillé dans ces structures dans les années 80-90. Et là, on a une vraie filiation. Vraiment, c'est pour ça que je défends cette idée du passage à l'échelle, du changement de degré qui est un changement de nature. C'est qu'ils ont vécu ce changement de... Bah, ils ajoutent un serveur, ils en ajoutent un autre, et puis la salle, elle est pleine, ça rentre pas, ils en posent un au-dessus de l'autre, donc ça chauffe plus, donc il faut qu'ils ouvrent les fenêtres très souvent en hiver. En été, ils savent pas bien quoi faire, ils mettent des ventilateurs qu'ils ont achetés comme ça, ça marche pas trop, il y a de la poussière qui s'accumule sur les ventilateurs, cette fois-ci des machines elles-mêmes, donc ils aspirent avec des aspirateurs pour venir enlever cette poussière qui s'accumule. Bref, de fil en aiguille, ils arrivent à un moment où ça tient plus. Et on a vraiment eu ça textuellement dans une bonne partie des entretiens qu'on a fait, hein, des gens qui nous disent « là, on était au bout du bout, ça tenait pas ». On se demandait à quel moment ça allait casser, à quel moment ça allait péter. Alors, parfois, c'est aussi d'un point de vue politique, hein. Une responsable de data center qui nous explique que dans un cadre universitaire, la salle des machines, elle était dans l'université, et la salle informatique, et qu'un jour, ils ont eu très peur, il y a eu un mouvement étudiant, et ils se disaient, mais si les étudiants savaient que derrière cette porte, il suffirait qu'ils la forcent pour rentrer, comme dans toutes les autres pièces, c'était pas tellement plus sécurisé qu'une salle de cours, et s'ils savaient tout ce qu'il y a là-dedans en termes de machines, il y a tout, il y a toutes les données de la présidence, il y a tout, il y a absolument tout, les salaires, tout ce qu'on veut, hein, en termes d'information. Donc voilà, ces personnes qui nous disaient, là, on était au bout du bout, on a compris vraiment au moment de ce mouvement étudiant qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça, ce n'est pas possible. Et évidemment, en termes aussi de climatisation, de place, de tout ça. Hein. Et donc là, elle nous racontait comment il y a eu ce passage, selon ces termes, obligé. Alors, il faut toujours se méfier de ça, parce qu'il peut y avoir une reconstruction a posteriori. Mais néanmoins, il y avait cette dimension de là, voilà, on atteignait la limite de taille à tous les niveaux. Selon tous les critères de fonctionnement de ces machines, il fallait passer à quelque chose d'autre et donc avoir un autre bâtiment. Et donc, ils ont fait en effet construire un bâtiment. D'ailleurs, ça nous a beaucoup amusé, puisqu'ils l'appellent eux-mêmes la boîte noire. C'est un bâtiment qui ressemble à un parallélépipède noir en béton. Hein. Donc voilà, on a fait rendez-vous là-bas avec Clément. On n'a pas réussi à rentrer au début, puisqu'on est passé devant deux fois sans le voir, en fait, tellement c'était anonyme, alors que c'était dans une zone plutôt urbaine, hein, classique. Mais on n'a pas réussi. On l'avait vu tellement il était invisibilisé par son architecture même. Mais donc voilà, deuxième point, c'est celui-ci, c'est la concentration progressive des machines avec le recours progressif, évidemment, avec la vague de développement de l'Internet fin des années 90, début des années 2000. Alors là, ça explose, hein, le recours à ces machines. Et donc forcément, on a là un besoin de concentration pour gestion optimale. Hein. C'est ça qui va s'opérer. Donc voilà, la multiplication des serveurs, parfois on trouve le nom d'hôtels télécom. Qui va produire cela. Et puis la troisième vague, qui va être l'espèce de troisième pied sur lequel va danser le data center aujourd'hui, hein, et qui est celui que quasiment tout le monde connaît maintenant, c'est le cloud avec le développement de l'IaaS, je ne sais pas comment on prononce ça, mais infrastructure as a service. Et donc, on va avoir comme cela, hein, au moment où l'Internet s'est développé massivement, le recours progressif à ce qui va s'appeler le cloud. Et le cloud va être là, en effet, va aboutir à une explosion du nombre de data centers. On va vraiment avoir besoin, hein, comme cela, de gigantesques centres de données. D'ailleurs, une personne qu'on a interrogée en entretien, hein, nous l'a d'ailleurs dit très clairement, cette citation qu'on a utilisée dans l'article, le cloud, c'est juste le data center de quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant comme remarque, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une quatrième vague de cette évolution. Juste avant le premier confinement, puisque ça a un peu porté un coup d'arrêt à nos entretiens, hein, mais on avait un entretien, je crois que ça devait être genre le jeudi avant le confinement, qui était le lundi ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était à quelques jours près, le premier confinement donc de mars dernier. On avait un entretien avec un opérateur qui s'occupe de l'informatique pour un très très grand groupe de luxe qui possède peut-être une vingtaine ou une trentaine de marques, j'ai pas tout retenu. Cet opérateur nous expliquait qu'il venait du métier du data center, mais qu'il l'avait quitté et qu'aujourd'hui il était dans le cloud. Et c'était vraiment intéressant de voir que, y compris les data centers eux-mêmes, pouvaient avoir le sentiment de se dématérialiser en travaillant directement avec des opérateurs de cloud, c'est-à-dire une couche de gigantisme encore supérieure. Hein. C'est-à-dire il doit y avoir 4 ou 5 des grands opérateurs du cloud sur la planète. Hein. On a des Google, on a des Amazon, etc. Qui expliquait, hein, que pour son grand groupe de luxe, auparavant, dès qu'il y avait une nouvelle application métier pour telle ou telle des marques qui étaient hébergées, il fallait penser au développement de la quantité de machines qui était nécessaire, avoir un plan, etc. Et donc, c'était lent, peu réactif, coûteux. Et puis, si on revenait en arrière ou si ça changeait, c'était toujours compliqué. Et donc là, il nous vantait directement les mérites du cloud, sachant que c'est comme si c'était le cloud qui allait dans le cloud, hein, c'était presque ça qu'il nous décrivait. Eh bien, il nous vantait le fait que désormais, il se faisait facturer au service auprès d'un gigantesque opérateur de cloud et que c'était beaucoup plus réactif, puisqu'en effet, on a une nouvelle économie d'échelle dans l'économie d'échelle qui s'opère. Donc voilà, trois principales phases qui aboutissent au data center aujourd'hui, je pense, et puis une quatrième, je ne sais pas, là c'est un peu par anticipation, mais j'ai le sentiment qu'il y a encore quelque chose qui se passe dans cette croissance, cette course au gigantisme.
Il y a un truc qui est intéressant dans ton anecdote, là, quand vous êtes passé devant ce data center caché, c'est effectivement, Baptiste va nous reparler des aspects mythologiques, mais il y a quand même un truc que je trouve assez... intéressant dans le fait qu'effectivement ces data centers on les voit pas. Je pense que très peu de gens parmi nous savent où il y a des data centers, encore moins quelles sont les données qui sont stockées à l'intérieur, etc. Donc il y a vraiment un côté immatériel, évidemment qui est faux, hein, mais immatériel voulu et qui rejoint peut-être justement les aspects mythiques ou mythologiques qui se cachent derrière.
Oui, tout à fait. Je pense que la question de l'invisibilité, elle est importante à plein de niveaux. Et après, c'est compliqué de savoir jusqu'où les choses sont voulues ou jusqu'où c'est tout simplement impossible à maîtriser. Je pense qu'il y a un peu des deux, en effet, hein, comme tu le suggérais, Stéphane. Mais d'un côté, c'est clairement voulu. Voilà, ce sont des lieux sécurisés, donc on ne va pas généralement faire la publicité. On a éventuellement le nom de l'opérateur qui est écrit à l'extérieur, mais qui sait ce qu'est Equinix ou Datafor ou ce genre de truc, hein. C'est pas du tout des noms qui sont connus du grand public. Donc on se retrouve comme ça à avoir des espèces, puis surtout c'est dans des zones, ça c'est assez incroyable, hein. À chaque fois qu'on fait des visites, il y a quelques data centers en zone urbaine, hein, puisque déjà c'est plus compliqué de les installer, mais et le terrain surtout coûte beaucoup plus cher. La plupart ils s'installent. Alors oui, ça faut peut-être le dire en passant, les data centers, il y a une problématique. On pourrait dire que pour les questions de climatisation, le Graal des data centers serait d'aller dans des endroits où il fait très froid ou sous la mer. Il y a eu des projets comme ça, hein. Mais le problème, c'est qu'il y a une latence qui est trop importante, parce que ça a l'air de rien. Mais même en se déplaçant à la vitesse de l'électron, eh bien, un data center qui est situé à 20 km d'une ville ou à 400 km, la différence est peut-être infinitésimale, mais sur la quantité de transactions qui a lieu et d'opérations élémentaires qui ont lieu chaque seconde, eh bien, ça joue. Et donc, pour des questions, bah, par exemple, hein, pour les automates boursiers, pour les applications militaires, et puis surtout, cette autre chose très importante qui est les jeux vidéo et le streaming pour pouvoir regarder des séries dans le métro ou l'RER, eh bien, on a besoin, comme cela, de temps de latence extrêmement faible, et donc d'avoir des data centers pas trop éloignés de là où se trouve la consommation vraiment de l'information. Donc, par exemple, hein, quand on prend le RER parisien et qu'on s'aperçoit, alors moins en période de confinement, même si ça reste quand même un peu blindé, à certains horaires, eh bien, quand on voit tous ces gens qui jouent à Candy Crush ou qui regardent des séries ou qui font je ne sais quel jeu, eh bien voilà, tous ces trucs-là fonctionnent en temps réel sur des serveurs pour avoir des stratégies qui sont, c'est typique de Candy Crush, hein, les stratégies sont amendées en temps réel pour produire le sentiment le plus addictif possible, hein, et donc s'adapter à la stratégie de la personne qui joue. Eh bien, ce genre de trucs doivent donc être calculés en temps réel pour chaque personne qui joue, ce qui veut dire qu'on a besoin en effet de beaucoup de calculs et surtout d'une réactivité très forte, donc un temps de latence le plus faible possible. C'est pour cette raison qu'on a une sorte de compromis pour les data centers généralement, hein. Une bonne partie d'entre eux s'installent, sinon ce serait trop simple, ils les mettraient tous en Irlande du Nord ou dans l'océan Arctique. Mais donc la plupart d'entre eux s'installent dans, par exemple, Paris, c'est ce qu'on appelle la couronne 40 000 volts, c'est-à-dire des endroits où il y a encore de la puissance électrique qui est disponible, parce que les data centers sont hyper consommateurs de puissance électrique. Mais donc il y a de la puissance électrique disponible, c'est pas saturé, le poste source EDF local est pas saturé, parce que ça coûte très cher d'ajouter un poste source. Et une fois qu'on a trouvé des endroits comme ça, c'est bien si on n'est pas trop loin des grandes villes. Donc comme ça, la couronne 40 000 volts autour de Paris, bah, si vous avez déjà pris la voiture en sortant du périph' parisien, bah, on a comme ça tout un tas d'endroits qui sont un peu des no man's land, où il y a juste des espèces de zones d'activité commerciale ou industrielle. Il y a quelques grosses boîtes où il y a les gens qui sont déposés en navette ou en arrêt de bus ou en arrêt de RER. Il y a quelques entrepôts logistiques et il y a des data centers aussi. Voilà, c'est ce genre de plateformes, hein, qu'on peut trouver. Et donc, c'est très souvent des espèces de no man's land où il y a vraiment, je pense que pour manger le midi, si on n'a pas de cantine d'entreprise, c'est sandwich obligatoire. Il n'y a pas un commerce à des kilomètres à la ronde, hein. C'est souvent une heure de bus depuis je ne sais quel terminal de RER. Et on a donc comme ça ces data centers qui sont implantés dans ces endroits-là, qui sont donc de fait invisibles, puisque personne ne peut passer quasiment physiquement à côté, à moins de vouloir y aller, hein, c'est quasiment ça. On a quelques cas, en effet, de data centers vraiment urbains, où là, il peut y avoir une volonté, en effet, de les maquiller ou de les camoufler, pas pour je crois qu'on n'est pas dans le top secret, hein, mais disons pour ne pas les rendre trop visibles et que les gens n'aient pas envie d'aller voir ce que c'est. Et c'est vrai que très souvent, quand on passe à côté, ça ressemble à des entrepôts et on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans. On n'a pas du tout envie d'aller voir à l'intérieur, c'est absolument pas sympathique à voir. On s'imagine qu'au mieux, il y a un camion qui en sortira avec je sais quoi dedans, et voilà, ça n'excite pas du tout la curiosité. Donc il y a, je pense, ce mélange de choses voulues et non voulues dans l'invisibilité des data centers, sachant qu'en plus, il y a un deuxième aspect dans ta question, Stéphane, qui est qu'on ne sait pas les données qu'il y a dedans. Et alors ça, je ne sais pas s'il y a un être humain sur Terre qui sait les données qu'il y a dedans. C'est très, très compliqué. En fait, là, on est dans des niveaux d'enchâssement systémique qui sont très difficiles à démêler. Parce que donc, alors, il y a plusieurs types de data centers, il faut peut-être dire ça aussi, mais il y a les data centers propriétaires. Donc, par exemple, Google a des data centers qui appartiennent à Google et Google gère ces données dedans. Il peut éventuellement louer de l'espace. Mais enfin, voilà, c'est Google pour Google. Donc, ça, c'est propriétaire. C'est pas, nous, on n'a pas tellement pu rentrer dans ce type de data center parce que ces data centers-là ne recherchent pas de clients. Donc, ils n'ont pas tellement d'enjeux à faire visiter ça. Des étudiants ingénieurs, donc ils ne recherchent pas de clients parce qu'ils sont clients d'eux-mêmes. Mais comme je le disais, hein, la vague actuelle vise peut-être à la raréfaction de ce type de data center, à l'exception des très 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 gros opérateurs. Et puis ensuite, nous, ce qui nous intéressait et ce qui était plus facile comme d'accès, ce sont les data centers qu'on appelle de colocation. La colocation, c'est-à-dire qu'on a un opérateur de data center qui va créer un bâtiment ou bénéficier d'un bâtiment existant et intégrer dedans des machines et il va vendre des espaces. Il peut vendre plein de types d'espaces, soit des espaces déjà avec des serveurs, soit ce qui se fait assez souvent, vous vendez de l'espace physique avec de la climatisation, de l'alimentation électrique et puis charge à votre client d'amener sa propre tour de serveur qui va plugger dans votre infrastructure. Et donc, ces data centers de colocation, là, en effet, qui sont, nous, ce qu'on a le plus étudié, parce que c'est à la fois intéressant en termes de marché, mais en même temps, voilà, c'est aussi ce à quoi on a pu avoir accès. Bah, ces data centers de colocation, ils sont structurellement opaques. C'est-à-dire qu'on a les gens de certaines entreprises qui savent dans leur tour de serveur, dans la salle machin, ce qu'ils y ont mis, mais eux, ils ne peuvent pas avoir accès aux autres. Et d'ailleurs, même il y a des data centers où il y a des cadenas entre différentes pièces, entre différentes zones des salles qui sont cadenassées pour que tel opérateur de telle boîte qui pourrait être concurrent du box de la boîte qui est hébergée dans le box d'à côté, eh bien, il ne puisse pas aller fiche le bordel ou je ne sais quoi dans l'autre box. Et donc, on a comme ça une opacité structurelle. Et les gens dans le data center eux-mêmes, ils vendent de l'infrastructure industrielle, hein, de la climatisation, de l'électricité, des groupes électrogènes. C'est ça qu'ils vendent, en fait. Hein, c'est de la sécurité d'infrastructures énergétiques et climatisées. Et donc, les étudiants souvent sont très, très surpris de dire « mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là qu'il y avait aussi peu d'informatique en fait, dans un data center ». S'ils se rendent compte vraiment en pénétrant à quel point c'est gigantesque. Je vous donne un exemple, un groupe électrogène hein, où on nous dit en passant « il faudrait faire attention parce que si ça s'allume pendant qu'on est là, on pourrait perdre quelques décibels du côté de notre audition, on pourrait quasiment devenir sourd ». Tellement les groupes électrogènes, ce n'est pas ceux qu'on voit en manifestation qui permettent de faire griller les merguez. Hein. Les groupes électrogènes qu'il y a là-bas, c'est des trucs qui font la taille d'un petit bâtiment. Donc voilà, on est dans ce genre de situation où là, structurellement, ces infrastructures, elles sont opaques. Les gens qui vendent les espaces dans les data centers de colocation ne savent pas ce que chaque client va mettre dedans. Les clients eux-mêmes ne savent pas ce que les autres clients mettent. Et à l'intérieur même d'une entreprise, pour que tout le monde sache ce que tout le monde de l'entreprise fait, déjà, c'est pas gagné. Donc voilà, là, je pense qu'on est à un niveau d'opacité où, surtout quand on déporte les applications sur plusieurs sites pour avoir de la redondance et de la sécurité, à l'échelle de la planète, je ne sais pas si quelqu'un pourrait vraiment, à l'heure actuelle, identifier la répartition, les grands clusters, les grandes applications, etc. Peut-être qu'ils ont des gens très pointus chez Google qui, pour leur propre système Google, où là, ils ont les informations, peuvent avoir des espèces de cartes comme ça, mais je pense qu'on est dans une opacité structurelle. C'est pour ça que personne gère à un certain niveau ces trucs-là.
Et cette notion d'opacité, d'invisibilité, c'est vrai que c'est très très intéressant parce que, alors, Guillaume, dit que ça peut être involontaire d'une part, mais voulu aussi, donc il y a un aspect politique à cela, puis la notion d'invisibilité recoupe en fait finalement beaucoup de thèmes. Il y a l'invisibilité de l'impact énergétique des data centers, l'invisibilité donc de la nature des données qui sont hébergées, du fonctionnement de la sécurité de ces data centers, puis également l'invisibilité du travail humain et de la nécessité d'avoir des personnes qui vont gérer également, qui vont assurer la sécurité, puisque l'automatisation de la sécurité qui est vendue au travers du concept de data center n'est finalement peut-être pas si fiable que cela. Enfin voilà, toute cette notion d'invisibilité, d'invisibilisation traverse énormément de thèmes dans notre compréhension des data centers. Après, pourquoi est-ce que cette invisibilisation est voulue, notamment dans ce qui peut être concernant la nature du travail dans les data centers?
Alors, il y a plusieurs choses, et je pense qu'il y a... J'ai envie de dire, vous me posez presque une fausse question, Audrey, puisque vous pourriez y répondre beaucoup mieux que moi pour une partie de celle-ci. Donc, je vais répondre sur ce que je connais simplement. Autrement dit, il y a un aspect absolument gigantesque, hein, presque abyssal, dont je ne vais pas ou très très peu parler, qui est celui que vous connaissez mieux que moi et que j'espère vous pourrez traiter dans une autre émission en étant invité vous-même. Mais à savoir le travail humain, notamment de modération, le travail humain de gestion des contenus qui, lui, est déporté à l'échelle de la planète et qui est absolument absolument gigantesque. Voilà, il y a Sarah Robert qui a fait une grande enquête là-dessus. Je crois que vous travaillez là-dessus aussi, Audrey. Vous m'aviez d'ailleurs conseillé quatre petits excellents films de 20 minutes, hein, Les Travailleurs du Clic, je crois que ça s'appelle, il faudrait vérifier le titre, mais qui montre bien ce visage-là méconnu de l'Internet. Hein. Les contenus ne sont jamais modérés à la main, la plupart du modérés automatiquement, je veux dire, la plupart du temps, ce sont des gens à la main qui doivent le faire. Et donc voilà, il y a un gigantesque travail caché de l'Internet qui existe. Antonio Casilli a un peu travaillé là-dessus, enfin, c'est un peu son fonds de commerce aussi, voilà. Bref, donc je ne vais pas parler tellement de ça, parce que, enfin, je ne vais même pas en parler du tout maintenant, parce que ça, je connais très mal, je sais juste que ça existe, mais j'ai pas enquêté dessus. Après, ce dont je peux parler davantage, c'est la question du travail humain pour la gestion de la sécurité dans les data centers. Il faut juste avoir ça en tête. En fait, un data center de colocation, il vend de la sécurité à tous les niveaux, hein, dans, je l'ai dit, alimentation énergétique, climatisation, redondance des données parfois, hein, et puis donc gestion des sites. Et donc, c'est d'ailleurs tarifié, hein. Il y a des minutes annuelles qui peuvent être autorisées de downtime, c'est-à-dire de temps d'erreur ou de temps d'arrêt, et si le data center dépasse ces minutes annuellement, sachant que des fois, ça peut être très faible. Hein. Les data centers, selon la qualification de l'Uptime Institute, qui sont de tier 4, les plus hauts niveaux, hein, pour la banque ou l'armée de très très haut niveau en termes de sécurité, eh bien, je crois que c'est 99,997% du temps qui doit être online. Donc, vous calculez ça, de 99,997%, vous ramenez ça, je crois que c'est de l'ordre de peut-être 2 minutes par an, et encore, on nous dit, ce serait inadmissible pour nos clients. Mais en tout cas, si vous dépassez le nombre de downtime, la quantité de downtime qui est contractuellement prévue au départ, il y a des pénalités financières. Donc bon, bref, les opérateurs de data center, ceux qui vendent des espaces dans les data centers de colocation, ils ont tout intérêt à minimiser ça. Et donc, ils vendent très clairement, en fait, contractuellement, ils vendent de la sécurité. Alors, s'ils vendent de la sécurité, c'est qu'ils ont bien derrière, hein, des gens qui vont gérer ça, parce que c'est ce qui nous est apparu. On a écrit un article sur la question des pannes avec Clément. La question des pannes dans les data centers, c'est le spectre de la panne, il est omniprésent. Et en fait, un data center est censé être construit, optimisé, géré pour éviter qu'il y ait des pannes. Et pour cela, là, on rentre dans quelque chose d'important, comme vous le disiez, c'est qu'il y a des humains. Il y a des humains tout le temps, et pourtant, le discours, c'est qu'il n'y a pas d'humains. Ça, c'est intéressant, c'est un paradoxe sur lequel on a essayé de revenir. Déjà, on a pu mettre bout à bout deux univers très différents. Je vous ai dit, on a fait des ethnographies dans des salons professionnels où là, principalement, les gens qui viennent sont des directeurs, des commerciaux, des ingénieurs, des gens qui sont plutôt dans la gestion globale de ces infrastructures et pas dans les tâches quotidiennes. Et le discours qui est systématiquement présent dans ces lieux, c'est le fait que l'erreur, elle provient des êtres humains. Le problème, ce sont les êtres humains. On ironise dessus dans l'un des articles, parce qu'il y a un intervenant qui se piquait de scientificité et qui donnait le sentiment qu'il s'y connaissait en sociologie. Alors, tout ce dont il parlait, j'en avais absolument jamais entendu parler. Clément non plus, lui qui est sociologue qui est vraiment sociologue. Et donc, il parlait du PFH en disant que c'était un acronyme sociologique. Et en fait, le PFH, c'était une blague de sa part et il voulait dire le putain de facteur humain. Il disait, c'est ça le problème dans les data centers, c'est le putain de facteur humain. Et voilà, il termine ses interventions en disant, si on pouvait enlever cette couche-là, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, enlever cette couche-là, ça veut dire on enlève les êtres humains, quoi. C'est eux qui foutent la merde, donc il faut les mettre ailleurs. Il faut en faire autre chose, en tout cas, on n'en veut plus, nous, c'est eux qui produisent les erreurs. Ça, c'est le plus extrême, mais sinon, on a un discours omniprésent qui est que tant de pourcentages des erreurs sont dus à des êtres humains. Tant de pourcentages des downtime, des pannes, des outages, comme ils disent, hein, sont dus à des erreurs humaines. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est tout à fait mythique dans le sens où l'un des bons indices de ce genre de rumeurs, c'est le fait que les chiffres varient. Des fois on a des intervenants qui nous disent oui, 90% des erreurs sont dues à des fautes humaines, 90% dans certains cas, 67% dans d'autres, donc toujours des chiffres un peu ronds, bref, c'est souvent assez louche. Et puis on est tombé sur un rapport, hein, qui mentionnait 22%, voilà. Mais ce n'est pas très important parce qu'en fait, ce qui nous semblait intéressant, c'est de mettre ça en regard de l'activité réelle dans un data center. On peut, pour l'instant, ils l'ont toujours mis, c'est toujours en accès libre, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'ils changeront, mais OVH, l'un des plus grands opérateurs de data center français, eh bien, ils ont leur workflow de gestion de data center qui est en accès libre en ligne. Alors en effet, je pense que ça n'intéresse pas grand monde sur Terre de pouvoir accéder à ça, mais nous, ça nous a permis d'avoir accès comme ça à tous les tickets. Donc un workflow, c'est quoi? C'est une chaîne de traitement qui transmet automatiquement les messages entre les différents opérateurs qui doivent intervenir dans une chaîne technique. Et donc, Là, on voit tous les tickets. Les tickets, c'est le nom qu'on donne en fait à des espèces de messages hein, qui sont envoyés. Dès qu'il y a un plantage à tel endroit, il y a un ticket qui est envoyé ou dès que quelqu'un voit un problème, il crée un ticket. Et donc, le ticket, ensuite, il suit son chemin dans le logiciel. Chaque opérateur qui intervient dit « Je suis allé voir à tel endroit, j'ai traité le problème ceci, ça ne vient pas de chez moi. » Ou alors l'autre qui dit « Je suis allé voir là, c'est résolu maintenant, etc. » Et donc, comme ça, le ticket d'incident peut être résolu ou au contraire, toujours en cours. Et quand on accède à ça, on s'aperçoit qu'en fait, les gens, ils passent leur temps de toute la journée. Il y a des êtres humains qui passent leur temps à gérer en permanence le fait que ça ne plante pas. Parce que ça plante tout le temps, ça plante en permanence. Mais il faut donc qu'il y ait des gens qui soient comme cela, hein, en mesure de s'occuper de ces micro-pannes qui parfois sont plus graves et ça demande plus d'intervention. Mais donc, en fait, on a des êtres humains en permanence qui sont là en train de lisser, de fluidifier le système. Autrement dit, ce que ça nous semblait mettre en évidence, c'est le fait qu'on vit dans un univers où on est persuadé que la technique est parfaite, que les infrastructures des systèmes techniques autour de nous sont fonctionnelles et que s'il y a un problème, c'est que l'être humain l'être humain a fait quelque chose. Alors qu'en réalité, nous, on avait le sentiment que c'est l'inverse. C'est que les infrastructures techniques, elles sont tout sauf parfaites en permanence. Et il faut au contraire qu'il y ait tout le temps du temps pour qu'il y ait des gens qui passent ce temps-là pour les faire fonctionner. Et ça, il me semble que c'est un résultat qui est qui corrobore des travaux qui sont faits pour d'autres types de systèmes techniques, hein, que ce soit l'eau courante, que ce soit la diffusion de l'énergie électrique, etc. On vit dans un univers où on a l'impression, de façon un peu transparente, je suis chez moi, j'ouvre le robinet, j'ai de l'eau, je branche quelque chose dans la prise, j'ai de l'électricité, j'allume ma box, j'ai Internet, etc. On a l'impression que chaque réseau, il fonctionne comme ça parfaitement. Mais en réalité, hein, en permanence, il y a du travail humain qui est intégré là-dedans pour que ça continue à fonctionner comme cela. Donc ça, c'est un premier point très important. Et ensuite, l'autre, c'est que la question de savoir combien de pannes sont dues aux êtres humains, c'est une fausse question. C'est une question qui n'a aucun sens. Parce que nous, ce qui nous a semblé apercevoir, c'est quelque chose de l'ordre de la récursivité sécuritaire. Autrement dit, si on a un problème parce que tel humain a fait l'erreur, on va tenter d'automatiser la chose. C'est une réponse, c'est celle que nous donnent les commerciaux dans les salons. Et donc, il va falloir, comme cela, produire un algorithme, produire des mécanismes électroniques pour faire cela. Mais on n'est pas à l'abri que ces mécanismes soient mal programmés. Il peut toujours y avoir un bug qui a été laissé par un programmeur négligent, et donc il va bien falloir vérifier ce travail-là. Et donc on va peut-être faire une instance de vérification, hein, en effet un algorithme de vérification des algorithmes, mais qui nous garantit que cet algorithme lui-même n'est pas en bugué, et comment va-t-on le vérifier ? Donc c'est une pure récursivité, c'est-à-dire que vous connaissez peut-être cette image des idées noires de Franquin, hein. Toute personne qui en a tué une devra être tuée à son tour, et comme ça sur une page entière, on voit des bourreaux qui vont tuer des bourreaux, qui vont tuer des bourreaux, qui vont tuer des bourreaux, qui vont tuer des bourreaux. Bah, c'est un peu ça le principe, hein. Là c'est que comment être certain que tel système automatisé n'est pas lui-même cause de panne, qui sera lui-même, s'il est vérifié par quelque chose, que celui-là ne sera pas cause de panne. Et là c'est pas une fiction dont je vous parle, hein. C'est la réalité du fonctionnement des data centers. Je vous cite un tweet du PDG d'OVH. Ce matin, le système de bascule motorisé d'un data center de Strasbourg n'a pas fonctionné. L'ordre de démarrage des groupes n'a pas été donné par l'automate. Il s'agit d'un automate NSM, normal secours motorisé, fourni par l'équipementier des cellules haute tension 20 kV. Nous sommes en contact avec lui afin de comprendre l'origine de ce dysfonctionnement. La base de données avec la configuration est enregistrée 3 fois et copiée sur 2 cartes de supervision. Malgré toutes ces sécurités, la base a disparu. Nous allons travailler avec l'équipementier pour trouver l'origine du problème et les aider à fixer le bug. Donc voilà, vous voyez bien, hein, là le problème, c'est que tout ça, ça a été automatisé, et puis le matin, il débarque, il n'y a plus de base de données. Enregistré 3 fois sur 2 cartes différentes, et plus de base de données. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quel est le bug, matériel, algorithmique, enfin, soft, hard, on n'en a aucune idée. Donc après, il continue. Les bugs, ça peut exister. Les incidents qui impactent nos clients, non. Il y a forcément une erreur chez OVH, puisque malgré tous les investissements dans le réseau, dans les fibres, dans les technologies, nous venons d'avoir 2 heures, en fait 153 minutes, de downtime sur l'ensemble de nos infrastructures à Roubaix. Donc là, c'est un bon exemple, hein, de cette récursivité sécuritaire où on fait des trucs pour empêcher qu'il y ait des humains qui puissent faire ceci ou cela, mais ça ne garantit rien en fait. Et le seul moyen de garantir quoi que ce soit, c'est d'avoir des êtres humains qui en permanence vérifient que les choses fonctionnent. Évidemment, eux aussi, ils peuvent faire des conneries, hein, mais ça n'empêche que sur le long cours, on a besoin de ces êtres humains tout le temps. Il n'y a rien qui fonctionne sans ça. On ne peut rien laisser tourner tout seul, ça plante en permanence, il y a toujours des problèmes. On a des gens qui, en permanence, leur boulot consiste à faire que ça fonctionne.
Et donc, en fait, c'est quand ces personnes dont l'objectif, c'est de gérer des pannes, se trompent, on va dire que c'est une erreur humaine, alors qu'en fait, initialement, il y avait un problème technique, c'est ça, si je suis bien votre raisonnement.
Alors, à un certain niveau, c'est ça, et même on pourrait dire que 100% des fautes, des pannes sont d'origine humaine, et 100% des situations de bon fonctionnement sont d'origine humaine. Vous voyez, c'est parce que, à preuve du contraire, il n'y a aucune machine qui est intelligente par elle-même, a produit d'autres machines, qui a produit des systèmes qui existent. Tout ça, ça a été produit par des êtres humains. Il y en a peut-être un qui a déconné dans le groupe électrogène, il y en a un qui a déconné dans le branchement du truc, il y en a un qui a... Et là, on rentre dans quelque chose qui est structurel. Et c'est exactement ce qu'on a vu, c'est pas du tout là, ce dont on parlait, le data center. Il n'y a plus grand-chose à voir immédiatement avec le data center, mais là, on rentre dans quelque chose qui est structurel. C'est ce qui s'était mis en évidence avec l'accident de Fukushima. La faute à qui c'est ? Mais on n'en a aucune idée. Est-ce que c'est un ingénieur machin ? Est-ce que c'est qu'on n'a pas respecté le cahier des charges ? Est-ce que c'est les constructeurs ? Est-ce que c'est les politiques ? Est-ce que... On est dans des systèmes techniques d'une taille telle qu'ils sont structurellement opaques. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui peut avoir une vision panoptique de l'ensemble et dire « c'est ça, je sais exactement ce dont il retourne ». Le seul moyen qu'on a, c'est d'avoir plein de gens qui bossent avec leur expertise ici, là, un peu partout, et d'essayer de démêler le truc. Et puis au bout d'un moment, on a des couperets qui tombent, qu'ils soient politiques ou juridiques. Très souvent, quand il y a une panne, hein, il faut que ce soit juridique, s'il y a de la thune qui doit être versée, de l'argent qui doit être versé parce qu'il y a un problème, ben voilà, juridiquement, il faut trouver un moyen de résoudre la question. Donc on va dire, on va faire une enquête, puis on va décréter finalement que ça va être ceci ou cela en fonction des infos qu'on a. On n'en est jamais certain. On est dans une complexité telle, je vous dis, que même les gens sur place, ils ne peuvent pas être certains de ce qui se passe. Le PDG de VH, à qui on a tout fait remonter, il dit « je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça s'est passé. On ne sait pas comment on en est arrivé là. »
Ok, peut-être avoir un mot maintenant, peut-être changer de sujet, là, sur la question de la soutenabilité du modèle des data centers. Vous parlez dans votre article d'indice de performance écologique des data centers, avec notamment le PUE. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus ?
Le PUE, en fait, les data centers, assez tôt, ça c'est l'un des grands chantiers d'enquête de Clément aujourd'hui, je suis un petit peu intéressé mais à cette question du PUE. Clément, lui, il est en train de travailler à la phase ultérieure qui dépasse la question du data center, c'est celle de la vulnérabilité idéologique du numérique sur la question environnementale. Et donc très tôt, hein, les data centers savaient qu'il y avait des choses comme ça qui pouvaient être dans la ligne de mire, et il y a quelques rapports qui ont fait date. L'un des derniers, c'est le rapport du Shift Project, qui en effet, hein, montre que voilà, le numérique consomme plus que l'aviation, enfin émet plus de CO2 que l'aviation. Il y a des questions d'approvisionnement énergétique considérables qui ont lieu. Donc les data centers savent qu'ils peuvent être vulnérables là-dessus, et il a fallu assez tôt réfléchir à des questions de communication autour de ça. Et donc il a été mis en place un indice pour communiquer sur la question énergétique et environnementale pour les data centers, et cet indice, c'est le PUE. Le PUE, c'est l'acronyme de Power Usage Effectiveness. Donc, en gros, efficacité de l'utilisation énergétique qui est faite dans un data center. Et ce PUE, c'est un ratio. Un ratio, ça veut dire que c'est une division entre la quantité d'énergie totale utilisée dans le data center divisée par la quantité d'énergie utilisée uniquement par les machines informatiques. Donc, pas la climatisation, pas les groupes électrogènes, etc. Et donc, ça veut dire qu'un data center, le graal du data center, hein, c'est d'avoir un PUE de 1. C'est-à-dire que toute l'énergie utilisée soit l'énergie utilisée par les machines informatiques. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un verdissement, en anglais greenwashing, hein, parce que c'est déjà c'était mis en place par un consortium. C'est qui ? C'est le consortium qui met en place le PUE. C'est un consortium c'est pas un consortium, c'est pas ça le nom exact. C'est une étude qui a été réalisée par trois auteurs de Schneider Electric, Disney et Emerson Network Power, qui a abouti aux calculs statistiques qui ont mis en place le PUE. Parce qu'il y a des calculs de conversion énergétique qui sont importants. D'ailleurs, c'est basé sur les ratios états-uniens, et ce n'est pas du tout dit qu'à l'échelle de la planète soit la même chose partout. Hein. J'imagine que les data centers en Arabie Saoudite n'ont pas le même taux de conversion entre les énergies hydroélectriques, de centrales à charbon, etc., que c'est le cas aux États-Unis. Mais passons. Le PUE, donc, a été proposé comme un indice qui fait que ce serait un moyen de communiquer sur les efforts environnementaux qui sont faits de la part des data centers. Le Graal, je vous l'ai dit, c'est d'arriver à 1. Comme ça, ça veut dire que toute l'énergie consommée est de l'énergie consommée uniquement par les machines. Alors moi, l'un des trucs qui m'embête un peu toujours, c'est que dès qu'on parle environnement et énergie, si on ne parle pas en valeur absolue, c'est un peu du flan. Parce qu'on pourrait faire la fiction, imaginer un data center qui ferait la taille de la forêt amazonienne et qui recouvrirait intégralement celle-ci en l'ayant détruite, mais avec des nouvelles technologies extrêmement performantes qui n'existent pas à l'heure actuelle, mais qui n'auraient pas besoin de climatisation, qui n'auraient pas besoin d'alimentation électrique autre que pour faire fonctionner uniquement les ordinateurs. Et dans ce cadre-là, on aurait un PUE égal à 1, et ce n'est pas pour autant que ce serait parfaitement éco-friendly, j'imagine, un data center de ce type. Hein. Donc là, on voit bien que le PUE a un certain niveau de réflexion, c'est une arnaque. C'est tout simplement un indice qui permet de communiquer sur le fait qu'on est comme ça, préoccupé de l'environnement ou pas. D'ailleurs,
qu'il y a du coup d'autres indicateurs, peut-être ? Parce que là, on voit bien qu'on se concentre en fait uniquement sur la phase d'exploitation du data center, mais la partie extraction de métaux nécessaire à la fabrication du data center, est-ce que c'est des questionnements qui sont, qui seraient objet d'un greenwashing important, mais est-ce que c'est des questionnements qui traversent les gens qui vendent des data centers ou pas du tout ? Est-ce qu'ils occultent complètement la question ?
Non, ça c'est pas du tout, mais enfin à ma connaissance, moi j'ai jamais vu parler de ça dans un salon. Hein. Mais à l'heure actuelle, il y a en effet ces questions qui commencent à être abordées par quelques groupes, mais qui sont plutôt des groupes, j'aurais envie de dire, à la pointe de ces questionnements et qui sont pas toujours en odeur de sainteté d'ailleurs partout. Hein, mais je parlais du groupe Eco-Info du CNRS, ce sont des gens qui réfléchissent bien, qui travaillent à ces questions-là sérieusement, d'ailleurs qui ne sont pas à voir par certains trucs. Hein. J'avais assisté à une réunion, pas dans le cadre de ce groupe, mais voilà, où un salarié d'Atos, une grande entreprise du CAC 40, hein, qui était assez désabusé sur la question en disant le calcul il n'est pas objectif, c'est un peu du pipeau cette histoire-là hein, de PUE. Mais si on voulait aller sur d'autres types d'analyses, il y a des choses qui existent, hein, comme les ACV, les analyses de cycle de vie. Clément, il travaille là-dessus actuellement. Les analyses de cycle de vie, à ma connaissance, ça n'a jamais été réalisé directement pour un data center. Hein. Peut-être qu'en Suède, ils sont quand même en train de s'y intéresser un peu, mais je ne crois pas directement, parce que de toute façon, on fait tout exploser si on commence à faire ça. Hein. Ce n'est pas possible que ça tienne. C'est même l'inverse, c'est qu'à l'heure actuelle, on nous vend des projets d'exploitation minière à l'échelle de la planète, qui, grâce aux nouvelles technologies, vont pouvoir, en effet, la mine du futur, elle va être écologique. Quand on voit les processus d'extraction minière, c'est une vaste blague. Mais ça n'empêche qu'on a l'un et l'autre qui se justifient mutuellement. Le numérique qui sert de caution à tout un tas de secteurs en disant que ça va permettre un verdissement, et puis inversement, voilà, on va dire que le numérique va pouvoir se baser sur des systèmes d'extraction. Mais ça n'empêche que pour les data centers, à l'heure actuelle, c'est pas du tout. C'est surtout la question de l'énergie, parce que quand on découvre qu'un data center, je ne sais pas, qui a pas loin de 100 000 machines ou un peu moins, ou même 50 000, et il consomme autant qu'une ville d'autant d'habitants, de 50 000 habitants, alors c'est pas linéaire le rapport entre les deux, mais c'est ce genre de rapport qu'on peut avoir. Voilà, vous habitez dans une ville de 50 000 habitants, vous apercevez que le data center à côté il consomme autant d'énergie que votre ville, bah évidemment ça fait un peu bizarre, hein. On se rend compte de ça. Les data centers, en plus il y en a beaucoup, donc voilà.
J'ai bien aimé, Guillaume, je crois qu'on est en train d'arriver un petit peu à la fin de l'émission, il va falloir qu'on te libère pour que tu ailles en cours, on verra si on en refait une autre ou pas, mais ce que j'ai bien aimé dans ton image avec le data center qui recouvre l'Amazonie, et je trouve que ça reboucle un peu notre point de départ sur l'invisibilisation, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des débats, nous, y compris en interne à Picassoft, entre nous, parce qu'effectivement, à un moment, on a toujours la tentation de se dire, ouais, mais si on optimise les processus énergétiques, etc., là, du coup, il y a de gros efforts qui sont faits par les data centers, des vrais et des faux, mais il y en a aussi des vrais pour justement diminuer les coûts énergétiques, mais néanmoins, et c'est là, encore une fois, que je trouve que ton image était parlante, in fine, en fait, ça veut quand même dire plus de données consommées, ça veut quand même dire des infrastructures de plus en plus omniprésentes, ça veut dire de plus en plus de terminaux, des terminaux qui consomment de plus en plus, etc. etc. Et donc, il y a bien quand même une question de fond sur le service que ces data centers rendent à la société et le coût qu'ils ont pour la société qui est pas du tout travaillé. Et je pense que le fait que ce soit effectivement des blocs noirs presque invisibles, comme tu les as décrits au début, plutôt que des grosses usines qui rejettent de la fumée, sur lesquelles on peut pointer le doigt, ou des usines chimiques comme on avait à Compiègne, on a peut-être toujours, mais elles sentent moins, qui sentent fort, etc. En gros, on le perçoit pas, quoi, je trouve, ce coup-là. Et en ça, je trouve qu'il y a un truc intéressant autour de ça.
Et on, ouais, tout à fait.
Pardon.
On élude aussi toute la partie écosystème autour du data center, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réduit l'impact énergétique du data center, ben on a réduit l'impact énergétique de quelque chose qui pèse comme 20% de l'impact du numérique, je crois. Et on évite toujours la question des terminaux, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, après, ça dépend, c'est toujours compliqué ces chiffres, mais moi j'avais vu passer des choses comme un tiers, un tiers, un tiers. Donc voilà, ce serait avoir un tiers minot, un tiers réseau et un tiers ensuite data center. Donc bon, c'est. Mais oui, je pense qu'en effet, de toute façon, les choses évoluent au fur et à mesure des années et des technos. Après, juste par rapport à ce que tu soulignais, Stéphane, dès le 19e siècle, il y a un économiste qui s'appelle Stanley Jevons qui pose cette question-là. Et d'ailleurs, en économie, ça va avoir le paradoxe va porter son nom, le paradoxe de Jevons. On le connaît plus classiquement en français sous le nom d'effet rebond. L'effet rebond, moi je l'ai vu dans le cadre de ma vie, j'ai 40 et quelques années, 42 ans aujourd'hui. Eh bien, l'effet rebond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des écrans cathodiques dans les années 90 qui font parfois jusqu'à plus de 50 cm d'épaisseur, et arrivent les écrans plats, on se dit c'est génial, ça consomme beaucoup moins, c'est absolument fabuleux. Donc on va être beaucoup plus éco-friendly avec ça, on va consommer moins à l'échelle de la planète. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais plus combien, il faudrait vérifier, là je vous dis ça de mémoire, mais je n'étais pas de cailloux si c'est faux, mais je crois qu'on est quelque chose de l'ordre de 11 écrans par foyer en France, ce qui était évidemment impossible à l'époque où on avait des écrans cathodiques. On pouvait pas avoir non plus d'écrans dans les stations de métro ou dans les bus ou ailleurs. C'était impossible d'avoir ce genre de choses à l'époque où des écrans cathodiques, c'était beaucoup trop gros. Mais voilà, on a économisé certes un peu d'énergie, mais par contre ça a été multiplié par une quantité astronomique, le nombre d'écrans. Donc c'est toujours la même chose, hein. On peut optimiser autant qu'on veut et diminuer les processus individuellement. Si à l'échelle globale on a quelque chose qui continue à être de l'ordre d'une croissance massive et exponentielle, hein, même dans le milieu, il se pose cette question de la croissance exponentielle, eh ben, ça ne peut pas tenir sur le long terme.
Guillaume, je suis désolée, je n'ai vraiment pas envie de vous interrompre, pas envie d'interrompre cette discussion, mais c'est vrai qu'on arrive au bout de l'heure d'émission qui nous est allouée. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant de discuter des data centers avec vous. On a appris énormément de choses, et puis ça appelle évidemment une seconde émission, comme d'habitude on promet, mais ça mériterait vraiment une seconde émission. Si on a le temps, on va envoyer une petite musique, mais avant cela, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous dans La Voix est libre aujourd'hui. Donc merci à vous, et puis on vous laisse avec un morceau de musique qui s'appelle Go, c'est de Atom en licence CC BY. On verra si on a de la place dans l'émission, mais merci encore à vous.
Merci beaucoup Audrey, et moi j'ai hâte d'écouter l'émission, vous interviendrez sur le travail invisible du clic.
J'ai très hâte moi aussi, ça va venir. Une promesse à tenir, absolument. Merci encore Guillaume, à bientôt.
Au revoir,
bonne journée à tous.
Bonjour.
Au revoir.
I see the violence in your eyes, and it's a silent fighting. I see the lies in their mind, and you can't decide, cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice, cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go, mom. I really don't want to see you cry. Mommy, go, mom. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Cause it's gonna be biting you. Cry, I know you've been loving him more than ever. Cry, I know he's been hurting you every day. Cry, but don't be afraid, cause he really don't, cause he really don't matter. Violence in your eyes, and it's a silent fighting. I see the lies in their mind, and you can't decide, cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice, cause they're gonna be biting you. They're gonna
gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. And mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize. Cause it's gonna be biting you.